Mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation, mesdames et messieurs les membres du jury, chers participants à cette conférence de consensus, réussite et échec dans l'enseignement supérieur. L'heure d'une première synthèse est arrivée. Il s'agit d'une synthèse sur le vif. Une synthèse plus élaborée viendra à la suite de celle-ci au cours du mois de janvier. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs de cet événement qui marque une première et les différents conférenciers pour la richesse des connaissances qu'ils ont apportées et pour la convivialité des échanges. Je remercie aussi les membres du jury qui m'ont accordé leur confiance puisque je parle cet après-midi en leur nom à partir d'un travail préparatoire ce midi. Mon propos sera structuré en trois temps. Dans un premier temps, je rappellerai un certain nombre de facteurs contextuels liés à l'enseignement supérieur français, bien évidemment de manière non exhaustive. Dans un second temps, je mettrai l'accent sur quelques concepts clés, quelques idées maîtresses issues des contributions des conférenciers. Un état de l'art plus fin arrivera ultérieurement à partir d'une réflexion et d'une analyse sur l'ensemble des contributions. Enfin, puisque cela nous est demandé, je formulerai, ou plutôt nous formulerons, une série de préconisations basées sur les apports de la recherche. Tout d'abord, le contexte. L'enseignement supérieur français est le produit d'une longue histoire. Il a connu une série de transformations, par exemple, massification, contractualisation, processus de Bologne, sont des termes que nous avons entendus au cours de ces deux jours. Ces transformations n'ont pas été sans conséquences sur les buts fixés aux établissements d'enseignement supérieur, mais aussi sur leur mode d'organisation. Aux côtés des universités qui accueillent sans sélection un public d'origine diverse avec un coût d'inscription modeste, figurent d'autres établissements sélectifs et appartenant pour certains d'entre eux au secteur privé. Toutefois, la sélection des étudiants ne signifie pas systématiquement accueillir les meilleurs étudiants. Au cœur de ces transformations, la question de la réussite étudiante a été un leitmotiv des politiques publiques. En ce qui me concerne, j'ai travaillé sur ces politiques publiques depuis la fin des années 90 et la question de la réussite et de l'échec ont toujours été présentes dans les discours institutionnels. Elle constitue aussi une problématique d'intérêt général relative à l'avenir de la jeunesse et plus largement de nos sociétés. Mais sous une apparente simplicité, la question de la réussite révèle un problème complexe. Qu'est-ce que réussir ? Est-ce que c'est être diplômé ? Est-ce que c'est effectuer un apprentissage en profondeur ? S'insérer professionnellement ? S'enrichir d'apports intellectuels qui constituent des repères au cours de l'existence et qui permettent de réfléchir et d'agir en citoyen engagé face aux enjeux sociétaux. Et d'ailleurs, peut-on tout mesurer ? De plus, ce qui est considéré comme échec en premier cycle peut cacher d'autres formes de réussite, une réorientation, l'accès à un emploi, la réussite à un concours. Les critères, c'est-à-dire les principes, les éléments auxquels se référer pour apprécier et définir l'échec sont multiples et ils révèlent des tensions entre une conception rationnelle et économique du parcours de l'étudiant et les parcours singuliers des étudiants, divers dans leur temporalité, les choix effectués, sans oublier de faire un lien avec la qualité et les acquis de la formation. Ainsi, le temps standard d'un parcours est aussi questionné. Alors, comment susciter, comment soutenir l'engagement des étudiants là où ils étudient ? Comment agir de manière efficace ou plutôt de manière pertinente pour répondre de façon appropriée à des situations diverses ? Si l'engagement est un concept clé, en particulier au début du parcours universitaire, il faudrait aussi mieux comprendre les causes des abandons en fin de parcours. Les facteurs contextuels, par exemple l'orientation, et les facteurs institutionnels, par exemple le cadre national des formations, ont un impact. Mais nous avons besoin d'études à grande échelle sur l'influence des dispositifs, des pratiques enseignantes, des modalités d'évaluation, en ne se contentant pas d'analyser les effets directs, mais les effets indirects, médiateurs et modérateurs. J'en viens maintenant au troisième point, les préconisations. Elles sont au nombre de 7, il aurait pu y en avoir 12, mais pour le moment 7. Première préconisation, concevoir la réussite comme un terme polysémique, multidimensionnel, tant dans la question de la persévérance des étudiants, la temporalité des parcours, des manières d'étudier sans oublier la prise en compte de la qualité et des acquis de la formation. Deuxième préconisation, élaborer un faisceau d'indicateurs de réussite à partir de travaux empiriques dans une approche à la fois qualitative et quantitative. En particulier, cela suppose de mettre en relation les grands organismes qui analysent les conditions de vie des étudiants et leur parcours. Ces grands organismes communiquant sur l'analyse et le sens de cette expertise à la communauté de l'enseignement supérieur. Troisième préconisation, soutenir la mise en réseau des chercheurs, les interpeller sur des questions vives qui deviendront des objets de recherche, ce qui suppose des collaborations entre chercheurs et praticiens. Soutenir les étudiants désireux de s'engager dans un parcours doctoral sur ces questions, grâce à des bourses de thèse, par exemple. Quatrième préconisation, faire se rencontrer régulièrement les communautés de chercheurs pour une ouverture pluridisciplinaire vers des travaux peut-être interdisciplinaires sur les problématiques d'enseignement supérieur. Quelques disciplines qui ont été citées, philosophie, psychologie, sociologie, sciences de l'information et de la communication, économie, sciences politiques, neurosciences. Valoriser les conclusions des travaux de ces chercheurs. Cinquième préconisation, élaborer des outils d'évaluation des dispositifs et des pratiques en impliquant les acteurs et en les outillant, c'est-à-dire en mettant à leur disposition les résultats de la recherche pour aller vers une intelligibilité de leurs pratiques. Sixième préconisation, définir précisément les modalités de l'accompagnement du développement professionnel des enseignants du supérieur en prenant appui sur l'état de l'art de la recherche dans les institutions. Septième et dernière préconisation, établir une double reconnaissance des enseignants du supérieur et des acteurs non enseignants dans leur mission pédagogique. En conclusion, et plus largement, ce thème de la conférence nous interroge sur le sens des études supérieures et sur nos valeurs. Qu'est-ce qu'un enseignement universitaire vraiment démocratique? Quelle définition de la culture dans la société du XXIe siècle à l'ère du numérique? Quelle place pour la jeunesse dans nos sociétés contemporaines? Quel rapport entre les générations? Quelle relation entre formation et emploi? La conférence nous a rappelé qu'il n'existe jamais de réponse simple à des questions complexes. Mais cette conférence, c'est aussi la mise en place d'une méthode à partager ensemble. Ministère, établissement, équipe pédagogique, étudiants. Pour 4 objectifs, identifier les dimensions d'un problème, chercher à analyser et à comprendre. Agir en étant outillé et de manière concertée. Supporter l'incertitude sans jamais abandonner la quête du sens de nos actions, là où nous sommes et quel que soit notre statut. Je vous remercie.